Bonjour à tous, bienvenue sur TechNet et sur MSDN, sur un sujet commun à la fois pour les développeurs et les professionnels de l'informatique, tous les administrateurs réseau, les responsables sécurité ou les responsables du poste de travail, sur un sujet qui est relativement fédérateur, qui est en fait le navigateur, plus particulièrement dans le cas de Microsoft, Internet Explorer. Donc nous allons parler durant ce workshop qui va durer peut-être bien 3 heures environ, d'Internet Explorer en entreprise avec les problématiques principales qui vous concernent aujourd'hui, que sont en gros la migration vers les nouvelles versions du navigateur. On parlera d'IE8, on parlera d'IE9, on parlera de standard, on parlera d'HTML5, on vous parlera de virtualisation. Et donc, afin d'avoir on va dire une couverture des sujets à la fois développement et IT, eh bien, on est aujourd'hui deux. Donc, David Rousset est avec moi.
Bonjour Stan. Et c'est un workshop, je crois qu'on a pas mal joué déjà. On l'a fait sur une quinzaine de comptes, de grands comptes chez Microsoft. Donc on s'est dit, pour que tout le monde puisse en profiter à plus large échelle, on va l'enregistrer. Donc vous n'allez pas suivre les 3 heures d'un bloc, on va le découper en plusieurs morceaux. Donc vous pouvez avoir les références sur le billet que vous êtes en train de lire ou sur l'endroit MSDN TechNet sur lequel vous êtes. Et donc à chaque fois, vous pourrez aller directement sur les parties qui vous intéressent. Si vous êtes intéressé plus par la virtualisation dans Internet Explorer, il y aura une partie, les moteurs de rendu, et sur IE9 ou HTML5, ce sera plutôt vers la fin.
Voilà. On devrait également remercier notre troisième compère qui n'est malheureusement pas avec nous là aujourd'hui, qui est donc Fabrice Meillon, qui était effectivement et qui a tourné avec nous en France à faire ce fameux workshop auprès des grands comptes. Grands comptes qui allaient en gros de 30 000 postes à 180 000 postes pour les entreprises les plus importantes. Donc vous voyez que globalement, on a un bon historique, une bonne expérience sur le sujet et on va essayer de vous en faire profiter au maximum. Si vous voulez plus d'informations pour compléter ces vidéos, n'hésitez pas à aller directement sur notre blog. Vous pouvez également nous y contacter, blogs.msdn.com/iefrance, sur lequel vous aurez des informations à la fois plus pour les professionnels de l'informatique, les IT, mais également la même chose pour les développeurs. Donc, nous avons découpé ce workshop de la manière suivante. Donc déjà, pourquoi nous avons fait ce workshop? Ensuite, on parlera de rappel un petit peu sur Internet Explorer 8. Ensuite, on parlera de compatibilité avec Internet Explorer 8. C'est un sujet qui est très d'actualité, simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de migrer vers Windows 7, par exemple, et du coup se posent la question de « et ma vieille version d'Internet Explorer ?». Ensuite, on parlera de déploiement d'administration en entreprise d'Internet Explorer 8. Et puis ensuite, on basculera sur Internet Explorer 9, les nouveautés. On terminera par une petite synthèse, et je ne l'ai pas mis ici dans l'agenda. Mais avant d'intégrer, de parler d'Internet Explorer 9, on parlera également de la concurrence. Donc, en gros, les autres navigateurs vus par Microsoft, donc avec toute objectivité qu'on peut avoir. Donc, effectivement, les autres solutions de type navigateur web dans l'environnement bien entendu de l'entreprise. On ne parle pas ici du grand public, ce n'est pas l'objectif de ce workshop.
Alors, pourquoi on a fait une partie sur les autres navigateurs? Pour une raison assez simple, assez pragmatique. Nous savons que vous êtes beaucoup à avoir déployé plusieurs navigateurs, c'est-à-dire Internet Explorer et Firefox. Donc, vous avez pas mal le parc en fait en Windows XP IE 6 avec une version de Firefox, et on va vous faire un petit statut sur quels sont les avantages de Firefox à la maison, qui sont excellents. Par contre, quelles sont les problématiques liées à Firefox ou Chrome ou d'autres navigateurs en entreprise liées à l'administration du poste de travail. Donc, on s'attardera plutôt sur cet aspect-là en entreprise, sachant que si vous êtes intéressé par une version un peu plus grand public de compétition, vous pouvez aller sur notre blog aussi, on s'amuse à faire ce genre d'exercice.
Voilà. Donc, on va commencer sur le pourquoi ce workshop, hein, David?
Oui, explique-moi, Stan.
Eh bien oui, on s'est aperçu, enfin donc Microsoft au sens général, mais sur la France, on a pas mal travaillé sur le sujet avec un peu d'avance sur les Américains, pour une fois. Pas pour une fois. Et donc c'était finalement le déploiement d'IE8, c'était un sujet qui globalement amenait beaucoup de questions dans le monde de l'entreprise. Simplement des questions qui sont tout à fait légitimes. Faire un projet de migration d'un navigateur X vers un navigateur Y ou d'une version X d'un navigateur vers une version X plus 1 ou X plus 2, derrière, il y a forcément des impacts. Et ça a un coût également, c'est un coût humain, c'est un coût en termes de financier tout simplement, et puis un coût en termes de temps et de ressources consommées. Donc, les questions qu'on a régulièrement, c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'utiliser la dernière version d'un navigateur? Pourquoi je basculerai sur IE8, sur mes postes XP, alors que j'ai des UE6 depuis des années, que globalement j'en suis content, ou que en tout cas je fais avec. Quels sont les moteurs de rendu qui existent aujourd'hui dans les nouvelles versions des navigateurs? Comment ça fonctionne? Comment je vais pouvoir gérer mes problèmes de compatibilité quand je vais par exemple migrer mon parc existant qui est en Windows XP IE6 vers du Windows 7 IE8? Qu'est-ce que je risque d'avoir comme problématique au niveau de mes applications, qu'elles soient métiers ou logicielles? Comment je peux déployer Internet Explorer donc dans une nouvelle version 8 ou 9 dans l'entreprise? Quelle est globalement la stratégie de Microsoft sur le navigateur? Ça, c'est une question qui était encore plus légitime l'année dernière. Je pense qu'aujourd'hui, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez remarqué qu'on commence à devenir beaucoup plus clair sur le sujet, mais au cas où, on va en reparler dans la dernière partie de ce workshop. Et globalement, bah, l'objectif de ce workshop, c'est de répondre à toutes ces questions, voire plus, en fait, parce qu'on va vraiment entrer dans le détail de chacun des points cités ici. Et globalement, si aujourd'hui vous êtes sur un projet de migration de Windows 7, enfin de Windows XP IE 6 vers Windows 7, donc IE 8 ou Windows 7 IE 9, globalement, vous allez avoir à un moment ou un autre dans, dans ce projet en fait de déploiement à avoir à traiter ces questions-là. Et donc, notre but aujourd'hui est clairement de vous aider sur ce sujet afin de vous ouvrir les yeux et que vous soyez complètement clair par rapport aux, aux problèmes potentiels que vous pouvez avoir, et également toutes les solutions qui existent, parce qu'on n'est pas là que pour vous parler de problèmes, mais également pour vous aider justement à outrepasser et à éviter à l'avance ces problèmes. Donc on va commencer par, par un petit rappel peut-être sur, sur IE 8. Alors on dit rappel parce que quelque part IE 8 a déjà deux ans. Hein.
Plus que ça même. Hein.
Plus que ça, tu es sûr, hein. 2007 hein.
Ben, on est en quelle année, Stan?
On est en 2010. Bientôt 2011. Donc voilà, donc IE 8 est arrivé en fait avec la sortie de Windows 7. Et donc il y a eu quand même quelques nouveautés entre IE 8 et IE 7. IE 7 qui était nativement disponible, qui est arrivé avec la sortie de Windows Vista. Et effectivement, entre les deux versions, il y a eu une réelle gap, qui fait qu'effectivement, ça vaut le coup peut-être de faire un petit rappel sur au moins quelques fonctionnalités qui ont pu être mises au niveau d'IE 8.
Donc il y a des nouveautés en termes de cosmétiques, comme on verra d'ailleurs avec IE 9. Il faut dissocier deux parties dans les nouveautés. Les parties liées à l'interface graphique, au moteur d'anti-phishing, ce genre de choses, et les parties liées au moteur même, c'est-à-dire moteur de rendu, moteur JavaScript. IE 8, au niveau interface graphique, n'a pas révolutionné grand-chose, hein, il était dans la continuité d'IE 7. Par contre, il y a déjà eu une mise à jour importante, qui n'est pas sur cette slide, mais qu'on va en parler sur le deuxième module, autour des moteurs de rendu et moteur JavaScript. Moteur JavaScript qui a été nettement amélioré par rapport à IE 6, IE 7, qui reste nettement inférieur aux versions les plus modernes des navigateurs type IE 9, Firefox et Chrome, mais il y avait déjà eu un effort de fait. Moteur de rendu, c'était sur la mise en conformité avec les standards qui sont actuellement toujours massivement utilisés, HTML 4.0.1, CSS 2.1.
Quand tu parles de standard du web tel que défini par le W3C.
Le W3C qui reste la référence sur l'application de ces spécifications et du suivi des standards. Donc tout ça, ça a été déjà un gros boulot au niveau d'IE 8. Et déjà, quand on pose la question, quel est l'intérêt d'aller vers IE 8 en entreprise, bah, c'est de se mettre aussi à jour sur le support des standards à travers un navigateur d'entreprise comme Internet Explorer. Alors bien sûr, on va voir derrière, ça engendre également des petits soucis de rendu puisque IE 6 n'était pas du tout au fait de ces standards, ce qui n'intéressait pas beaucoup, on va dire, et donc ça engendre quelques soucis. Ensuite, sur la partie cosmétique, il y a un ensemble de choses qu'on va voir ensemble à travers une démonstration qui sont dignes d'intérêt ou pas. Ça va vous faire une idée en entreprise sur l'intérêt d'implémenter ce genre de choses. Il y a des choses par contre intéressantes sur la navigation in private, qui est désormais bien connue par pas mal de gens, et surtout des choses autour de la sécurité dont tu vas nous parler.
Oui, tout à fait.
Donc je te repasse la main pour que tu nous fasses des petites démonstrations peut-être.
Allez, ben on va reprendre la main. Donc j'ai ici un poste Windows 7 avec le navigateur qui est standard, hein, qui est donc Internet Explorer 8. Voilà. Donc première petite chose peut-être, c'est la recherche visuelle ou les accélérateurs. Tu choisis lequel tu veux.
Allez, un accélérateur.
Alors, on va rechercher, tiens, si on cherchait David Rousset sur Bing. Tiens, t'es sur Wikipédia.
Ouais, c'est la classe, hein.
Tiens, on va aller par là. On va aller sur ton blog. blogzmsdn.com/Davrous.
Merci pour la pub.
Ouais, c'est cadeau. Et puis donc là, je vois que tu as écrit différents articles sur différents sujets. Un des accélérateurs, donc les accélérateurs, en fait, ils suffisent pour activer un accélérateur. Il suffit de sélectionner un terme. Je vais prendre par exemple ici HTML5. Et tu vois que j'ai sélectionné un terme et que j'ai ici, hop,
une petite icône bleue
qui est apparue. Donc ça, c'est l'aspect visuel de l'accélérateur, entre guillemets, qui indique que tu peux utiliser l'accélérateur. Donc j'ai fait ça sur un bouton droit. Je clique ici. Et là, à ce moment-là, je vois un ensemble, en fait, un ensemble d'actions ou d'accélérateurs disponibles. Donc là, ce sont les accélérateurs qui sont installés par défaut avec IE 8. Donc ce sont les accélérateurs de live, hein, donc de notre partie MSN. On peut en rajouter d'autres. Il y a une bibliothèque, exactement comme les add-ons qu'on peut avoir dans les différents navigateurs tiers. Nous, ça s'appelle les accélérateurs. Et donc, à l'intérieur, on en a plusieurs. Donc, par exemple, ici, j'en ai un qui fait de la translation, d'autres de la recherche, d'autres des cartes. On a la traduction, effectivement, sur HTML, sur HTML5, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, moi, on va essayer autre chose. Hop, là, je vais sortir de mon zoom.
Il y a beaucoup de termes techniques sur...
Sur HTML5, alors, regarde, par exemple, tu vois, je prends HTML5, je fais rechercher avec Bing, et automatiquement, j'ai une nouvelle page qui va s'ouvrir directement avec derrière tout ce qui est sur HTML5.
D'accord, donc c'est des actions contextuelles sur un mot, accélérateur, parce qu'on pense à productivité en fait, donc essayer de vous faire gagner un petit peu de temps sur des tâches usuelles que vous faites pendant votre navigation en fait.
Donc par exemple, tu vois, si je prends un terme plus générique comme par exemple Paris, je vais sur Wikipédia, je prends le mot Paris, on va laisser finir de charger la page. Connexion internet n'est pas très rapide. Back, voilà. Et si ici je vais faire un accélérateur, si j'avais sélectionné le mot, je n'y arrive pas.
Attends que la page te charge, voilà.
Voilà.
Sa machine n'est pas très rapide.
J'ai volontairement pris une vieille machine. C'est pour montrer qu'effectivement ça marche encore très bien. Donc par exemple, je fais ici la carte avec l'accélérateur et tu t'aperçois que j'ai directement ici un Bing Map qui apparaît.
D'accord.
Donc là, c'est les services de Bing. On pourrait
utiliser les services de Google.
Les services de Google, les services de Yahoo. Enfin, en gros, on n'est pas limité à faire de l'accélérateur dans le monde Microsoft. Ça marche avec d'autres éléments.
Alors pour nos amis développeurs qui nous suivent, sachez que ces accélérateurs, vous pouvez les consommer, on va dire, en sortie de boîte, out of the box, comme disent nos chers amis les Américains. Vous pouvez également faire vos propres accélérateurs. Ils sont assez simples à mettre en place. Vous êtes sur les documentations MSDN ou si vous parcourez notre blog, on en avait déjà parlé. Ça consiste en fait à décrire à travers des fichiers XML les URL que vous allez attaquer en fait. Hein. Par contre, il faut savoir, moi c'est un petit peu le défaut que je trouve aux accélérateurs, mais si ça vous intéresse et vous maîtrisez votre parc, c'est peut-être pas forcément grave, que c'est du propriétaire à Internet Explorer aujourd'hui. Ouais. Il y a toujours des réflexions autour de l'espèce de standardisation de ces approches-là. C'est supporté par d'autres navigateurs type Firefox à travers des plugins. Mais sachez que si vous le mettez en place ce genre de choses, ça ne casse pas le site, mais ce petit goodies n'est accessible qu'aux gens qui utilisent Internet Explorer 8 ou 9.
Ouais. Alors la recherche également visuelle, ça c'est plutôt intéressant dans Internet Explorer 8. Vous voyez que vous avez ici une zone de recherche qui est donc séparée ici de la zone d'adresse. On en reparlera après, on a fait quelques petits changements d'interface dans IE9. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir définir un ensemble de moteurs. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, par exemple, comme Amazon, eBay, Facebook, Wikipédia ou Bing, pour en mettre après ce qu'on a envie. Et le visual search, ou la recherche visuelle, consiste en fait à au lieu de juste... avoir des termes entre guillemets textuels, d'avoir des livres. Donc tu vois ici par exemple que j'ai un moteur visuel sur Amazon et là j'ai gardé le mot Paris et en fait on s'aperçoit que au lieu dans Amazon en général on vend des livres ou du matériel on va dire culturel ou
électronique.
Mais typiquement si je recherche un livre sur Paris, j'ai vu un livre qui m'intéressait dans un magasin où on m'en a parlé, où j'en ai vu la couverture, c'est plus visuel effectivement de revoir la couverture dans la recherche, tout d'abord simplement le titre en tant que tel, on se souvient pas toujours, donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Donc là ici typiquement on voit ici qu'on a un résultat qui est relativement bien fait parce qu'on a la jaquette du livre, la couverture pardon, et puis derrière on voit un début du titre avec également le prix et sa notation, ce qui est plutôt, je veux dire.
Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Ouais. À nouveau, pour nos amis développeurs, vous pouvez faire vos propres recherches visuelles. Vous allez inscrire au niveau du navigateur. Et ensuite, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle source de données. Hein. C'est un serveur web derrière qui répond, quelle que soit la technologie. Alors à nouveau, il faut que ça s'y prête. Si vous faites une recherche visuelle qui retourne que du texte, c'est moyen sympa quand même.
C'est pour ça qu'on a mis visuel dans la recherche visuelle.
Il faut qu'il y ait une image qui permette à l'utilisateur justement de gagner en rapidité, en productivité avec cette fonctionnalité.
Alors, autre fonctionnalité qu'on a rajoutée, qui s'appelle en fait la mise en surveillance du nom de domaine, ou le domain enlightening en anglais. En fait, ici, quand vous regardez l'adresse, vous constaterez qu'il y a une partie de l'adresse, en l'occurrence ici bing.com, qui est en gras, ou en noir par rapport au reste de l'adresse, qui est en gris. Alors là, sur une petite URL, c'est vrai que ça soit, à la limite, c'est pas très visuel. On pourrait prendre une URL un petit peu plus importante, comme microsoft.com/france/techdesk, par exemple, qui auront lieu du 8 au 11 février. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'en gras, on retrouve ici le nom de domaine microsoft.com. Alors, pourquoi on a fait ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, les URL sont de plus en plus compliquées. La plupart des gens qui ne sont pas dans le métier d'informatique, globalement, ils tapent des noms ou ils cliquent au travers de différents liens dans les moteurs de recherche ou dans les emails. Et des fois, ils peuvent en fait se faire berner par des mails de type arnaque ou scam, ou simplement des attaques de type hameçonnage, le phishing en anglais, où en fait on envoie les gens sur un site web qui ressemble à un site web légitime, alors qu'en fait ce n'est pas le vrai site web. Mmh. Et l'occidental en fait lit de la manière suivante, on lit de gauche à droite, et globalement, pour peu que l'URL soit un petit peu longue, eh bien du coup, le nom de domaine peut être très facilement masqué au-delà de la partie visuelle de l'interface, donc de l'écran en fait, simplement en ayant une URL qui est très très longue, le www.mabanque.fr.machin.machin.machin, et puis en fait, derrière l'écran, on a vraiment le nom de domaine qui lui est en gras.
.groshacker.ru.
.groshacker.ru, par exemple. Donc, du coup, l'idée ici, c'est de bien montrer le nom de domaine qui doit ressortir. Même chose pour faire ressortir une information. Quand on est en HTTPS, alors je vais faire un essai, j'espère que ça va fonctionner. Je pense que oui, je suis sur PayPal, on doit avoir une version en HTTPS. On va l'essayer tout de suite. Aujourd'hui, enfin depuis Internet Explorer 8, on supporte la mise en surveillance du nom de domaine pour les sites web qui vont utiliser en fait du SSL. Donc pour ces sites web qui font du SSL, s'ils utilisent en fait des certificats qu'ils ont payés plus cher, qu'on appelle les certificats EV pour Extended Validation, eh bien en fait la barre du navigateur va passer en vert. Donc là c'est pas le cas ici, mais ici tu remarques qu'on est encore en HTTP,
ouais,
d'accord ?
Il repasse en HTTP.
Donc je vais aller sur Connectez-vous. À ma connaissance, PayPal a mis en place ce type de certificat. C'est le cas, ça m'arrange. On voit ici que la barre en fait du navigateur est passée en vert. On conserve là ici la mise en gras du nom de domaine. Donc pourquoi la barre du navigateur est passée en vert ? Parce que le certificat SSL qui est utilisé est un certificat EV, Extended Validation, qui est un certificat qui, si vous souhaitez vous en acheter pour votre site web, va vous coûter plus cher et va vous coûter plus de temps parce qu'il va falloir fournir plus de documents. Donc l'autorité de certification, VeriSign ou CertTrust par exemple, vont vous le faire payer beaucoup plus cher. Et en vous demandant plus d'informations, sont quasiment certains que quand vous allez utiliser ce certificat, ce sera bien votre entreprise et pas n'importe qui. Voilà, c'est plus sûr.
Donc en tant qu'utilisateur, si je résume, il faut éduquer les utilisateurs. Il faut l'éduquer au niveau du nom de domaine.
Exactement.
Parce qu'il faut lui apprendre justement ce que c'est un nom de domaine et pour éviter qu'il se fasse berner avec cette technique-là. Ça a l'air anodin, mais il se trouve que récemment, il me semble, Opéra à récupérer cette petite astuce-là.
Oui, cette fonctionnalité vient d'apparaître dans la release candidate d'Opéra 11, donc en décembre 2010, soit à peu près 3 ans après qu'on ait sorti la fonctionnalité. Mais je veux dire, ça, c'est un petit peu le jeu dans le monde des navigateurs, c'est qu'on se récupère et puis on essaie de rénover certaines idées.
On en parlera un peu plus tard.
On en parlera tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est le principe.
Et pour la partie verte, à nouveau, ça vous coûte plus cher, mais si vous éduquez aussi vos utilisateurs, ça les rassure sur cette mise en vert de la barre d'adresse. Et inversement, on va voir qu'elle peut passer en rouge en cas de gros pépin.
Voilà.
Alors, c'est qu'on la retrouve dans d'autres navigateurs.
Oui, on la retrouve en fait dans les dernières versions de Firefox, donc les 3.5 et supérieures. À ma connaissance, Google l'a également implémenté dans Chrome.
Opéra, je ne sais pas,
à voir. Mais globalement, c'est l'idée du marché, c'est que tout certificat étendu, donc tout certificat EV, fera basculer les navigateurs, les barres de navigation. D'URL en vert pour la majorité. Voilà. Mmh. Et tu remarques ici qu'on a une information complémentaire qui est que quand je clique ici sur le nom, je vois le nom de la société qui a ce site web. Ici, on voit que c'est PayPal et j'ai les adresses de la société en elle-même. Donc voilà, ça donne plus d'informations, c'est plus visuel pour l'utilisateur. Et je pense que vu le développement aujourd'hui du cybercommerce, ça vaut le coup de payer un peu plus cher son certificat de proposer cette expérience à l'utilisateur.
Mmh. Oh, d'accord.
Dernière chose, donc effectivement, tu m'as dit là, c'est bien quand c'est en vert, mais ça peut également passer en rouge. Donc, je vous ai expliqué que c'est facile de berner un utilisateur simplement en demandant de cliquer sur un lien qui ressemble au lien de sa banque ou au lien de son site de jeu en ligne ou au lien d'un site de commerce en ligne, etc.
Ça s'appelle le phishing, c'est ça ?
Ça s'appelle du phishing, donc ou de l'hameçonnage ou du filoutage. Je crois que le terme filoutage était retenu pour la France. Donc l'idée, effectivement, c'est de berner en fait l'utilisateur et de lui envoyer en général un mail un petit peu alarmiste dans lequel on lui dit « Oh, attention, suite à des problèmes de sécurité, nous vous demandons de réinitialiser votre mot de passe. Il faut le faire avant ce soir, sinon on va désactiver votre compte. » Donc le mail est volontairement alarmiste. Il vient là pressé parce qu'on dit « Si vous le faites pas avant telle date, ben, on va vous couper l'accès. Et puis, si le mail est bien fait, il n'a pas trop de fautes d'orthographe.
Il est plus ou moins bien écrit en français.
Plus ou moins, voilà. Mais il y a des mails de phishing qui sont très très bien écrits en français, avec des logos qui sont repris provenant réellement du vrai site web, avec l'URL qui est écrit qui a l'air d'être bonne, mais en fait, des fois, ça joue sur peu de choses. À la place d'avoir PayPal, en fait, on va écrire PayPal 1, mais le 1 et le L en minuscule se ressemblent beaucoup. Donc, oui, il y a plein de moyens de berner le client. Et l'idée, en fait, qu'on a injecté dans IE7, en fait, sous la forme d'un filtre anti-phishing et qu'on a amélioré dans Internet Explorer 8, c'est ce qu'on appelle le filtre Smart Screen. C'est un filtre qui va permettre, en fait, à l'utilisateur d'éviter de se faire berner. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous expliquer après le mécanisme. Alors, je suis allé tout frais du matin pêché avec une photographe qui est volontaire ici dans ce nom.
Tu me rassures.
Voilà. Et j'y suis allé chercher donc quelques URL de sites web qui sont aujourd'hui réputés comme étant des sites de phishing. Donc, vous voyez qu'ici, on a des URL qui ressemblent à des choses qui, pour une personne qui ne se pose pas trop de questions, bah, peut être assez légitime. Donc, blizzaccount-login.com. Donc ça, typiquement, c'est pour effectivement
pour les fanas de World of Warcraft.
Exactement. Hein, donc ça, on peut penser que c'est effectivement pour se connecter sur World of Warcraft, sur le portail de Blizzard. Ici, tu vois que tu as les 2011 adobepdfreader.org, 2011 skypedownload.net. Donc là, c'est pareil, en fait, avec des noms qui sont relativement bien choisis, relativement clairs. Une personne qui fait une recherche en temps de recherche, on peut lui renvoyer effectivement ce lien-là. Il va penser à aller télécharger une version légitime du player Adobe ou une version légitime de Skype et se retrouver finalement sur un site qui va derrière l'infecter, etc.
Et puis les URL sont plus ou moins bien écrites, pardon.
Oui, là j'en ai pris qui sont assez propres, mais souvent elles ne sont pas très très bien écrites. C'est le site intéressant, tu vois, tu as site.google.com/paypal-financial.com/. Alors là, c'est quoi pour toi le nom de domaine? Tu vois, elle est un petit peu longue, je vais te.
Je vais faire mon utilisateur de lambda de base, c'est google.com. C'est pour t'aider dans ta démonstration.
Merci. Donc, effectivement, le nom de domaine ici n'est non pas google.com, mais en fait, ici, PayPal... c'est google.com, autant pour moi. Tu vois, je me suis même fait avoir moi-même. Regarde, tu as un slash ici, donc le nom de domaine s'arrête bien à ce niveau-là.
Par contre, on voit que PayPal... D'accord.
Celui-ci n'est pas très très bien fait, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Regarde, si je t'avais écrit comme ça, client.paypal-financial.com/.account.mondomaine en Russie.
Pas gentil.
.ru. Allez, tiens, regarde, tu vois. Donc là, tu vois, on est sur un nom qui est relativement long. Un navigateur, il y a de grandes chances qu'on finisse account, on va le mettre sans faute d'orthographe. Tu vois, ça pourrait s'arrêter comme ça, tu vois, l'utilisateur, il voit juste...
Il voit PayPal quelque part.
Il voit le début qui commence, site client paypal-financiel, on pourrait le mettre en français si on voulait faire quelque chose, sache un coup, comme ça, ça a l'air relativement serein, alors en fait, c'est pas réellement le cas. Alors, comme là, je viens de modifier l'adresse et que je m'en souviens pas, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre la première URL. Alors, un site de phishing, d'hameçonnage, ne reste en ligne souvent que quelques dizaines de minutes, quelques heures, rarement plusieurs jours, donc c'est pour ça que régulièrement, je fais de nouvelles démonstrations avec de nouveaux comptes. Donc ça, c'est des vrais dans la réalité.
Toujours la boule au ventre.
Peur
de faire une bêtise avec ta machine.
Voilà. Donc je vais prendre cette fameuse URL. On va faire entrer. Et là, eh bien, on voit que la barre effectivement passe en rouge. On vient d'avoir un gros message à l'écran. Alors ici, il est en anglais sur une version française du système d'exploitation qui sera en français, bien entendu. Donc je vais vous le traduire à la volée. Donc ce site web a été notifié ou reporté comme étant non sûr. Donc vous avez ici le nom de domaine. Vous remarquerez ici que le nom de domaine est bien passé en gras et que tout le reste est passé en gris. Nous vous recommandons de ne pas continuer la navigation sur ce site web et plutôt d'aller sur votre page d'accueil par défaut. Donc si je clique ici, je vais retourner sur ma page d'accueil telle que définie dans mon navigateur et donc je n'irai pas en fait sur le site web. Et là on précise plus pour l'utilisateur, ce site web a été déclaré auprès de Microsoft comme étant un site contenant des menaces pour votre ordinateur, pouvant en fait en gros révéler des données personnelles ou financières, typiquement du vol d'informations type phishing. Alors là, un utilisateur presque normal, logiquement, quand il voit ça, il ne devrait pas continuer.
Quand il voit que c'est tout rouge quand même, il devrait se poser des
questions. C'est un peu le but, hein, c'est un peu le but quand même. Mais s'il est curieux, il peut aller ici sur plus d'informations. Et là, on dit, voilà, ce site web a été donc déclaré, dangereux, blablabla. Voilà, là, si tu comprends pas ce que c'est du phishing, on te propose en apprendre un peu plus sur le phishing et on va aller sur un site d'éducation à l'usage du grand public sur l'hameçonnage ou le filoutage ou le phishing en français. Si par contre, je sais que ce nom de domaine, en fait, non, c'est pas une erreur, c'est juste qu'il a été mal référencé, je peux dire non, ce site web ne contient pas de menace et dans ce cas-là, je peux l'indiquer. Et puis si vraiment je suis
une tête brûlée,
inconscient, ou que je suis obstiné, que je veux absolument aller sur ce site web, eh bien je vais cliquer sur ne pas tenir compte de l'avertissement et continuer avec un gros message qui dit non recommandé. Mais bon là, on peut plus faire grand chose. Alors en fait si, quand on est en entreprise, l'administrateur de manière centralisée va pouvoir en fait faire disparaître ce lien-là, ce qui fait qu'en fait quand il y aura le filtre smart screen qui s'appliquera, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de continuer la navigation. Ce qui vous fait pour moi une dernière ligne de défense en termes de vol d'informations ou de menaces.
D'accord.
Car en fait le filtre smart screen, ce filtre rouge là, n'est pas uniquement un filtre contre les attaques de type vol d'informations phishing, mais également est un filtre qui va bloquer l'accès à des sites qui sont connus ou réputés pour véhiculer des codes malveillants, des virus, des spyware, des botnets, etc. Donc en gros, les URL ou les fichiers qui sont réputés comme étant mauvais sont bloqués à ce niveau-là. Donc on peut voir ça quelque part comme une sorte d'anti-malware, ouais. C'est pas vraiment ça, mais au niveau du navigateur. Donc c'est un niveau de sécurité complémentaire.
Alors souvent, les gens nous disent en entreprise qu'on faisait ce workshop, moi j'ai déjà tout un système de protection
firewall,
interne,
proxy,
etc. Hein. La plupart des utilisateurs désormais sont quand même assez nomades, c'est des portables, ils peuvent sortir des contraintes du réseau d'entreprise. Alors on a des technologies quand même pour protéger maintenant, mais elles ne sont pas forcément déployées. Là, c'est intégré dans le navigateur, donc si voilà. La personne à la maison se branche sur son internet à lui, il a un minimum de niveau de protection. Quoi.
Exactement, sachant que derrière, en fait, l'ensemble des listes de réputation sont gérées de manière centralisée dans le cloud. Et on a essayé de le dire dans cette présentation, donc un mot très à la mode aujourd'hui. Donc ce sont des services en ligne fait hébergés chez Microsoft, qu'on appelle le MRS, le Microsoft Reputation Service, dans lequel en fait, eh bien, on catégorise en fait les différentes menaces qui nous sont remontées par différents moyens, par télémétrie. On fait également appel à des sociétés tierces qui nous injectent des données dans notre base de données de réputation. Et globalement, ça nous permet de savoir si un compte est bon ou pas. Allez, on va quand même faire les têtes brûlées et aller cliquer ici.
C'est toujours un petit peu...
Toujours un petit peu stressant parce qu'on ne sait jamais comment ça va, si le site est toujours présent ou pas. Ah, le site existe. Écoute, tu vois, tu as très bien vu que Blizz quelque chose correspondait à World of Warcraft.
Je serais tombé dedans, ouais, tu vois.
Je serais tombé dedans. Donc ici, bah, vous avez un très beau site qui est plutôt même pas mal fait. Vous voyez qu'il est en différentes langues en plus. Donc c'est l'attaque est plutôt bien ciblée. Vous avez des petits logos partout. Ça ressemble vraiment à un site WoW. Et puis, ici, je pourrais effectivement taper mon login, mon adresse et puis mon mot de passe. Et quelque part, je viens de donner en fait à quelqu'un mes identifiants de World of Warcraft. Donc, il pourra changer et puis après récupérer les objets qu'il y a à l'intérieur.
Ah, expliquant aux gens qui connaissent pas forcément ce principe comment ça marche, on arrive là-dessus. En fait, le hacker ou les méchants pirates qui ont mis en place ce site vous demandent de saisir votre compte mot de passe. Ils l'enregistrent dans une base, vous redirigent vers la vraie page.
La plupart du temps.
La plupart du temps vers la vraie page. Et du coup, sur la vraie page, vous avez l'impression que vous avez mal tapé votre mot de passe, comme ça arrive souvent. Ouais. Et vous retapez et là, vous êtes logué. Donc, pour vous, c'est relativement transparent. Vous avez juste l'impression d'avoir fait une faute de frappe et ils ont récupéré votre mot de passe.
Oui. À l'origine, les attaques de type hameçonnage étaient vraiment ciblées sur les organismes financiers. Alors, principalement, on va dire ceux qui sont utilisés sur Internet, à PayPal, par exemple. Très ciblés également sur eBay. Et aujourd'hui, on commence à avoir, en fait, des cibles beaucoup plus précises qui sont, les banques par pays. Donc, les banques françaises, globalement, font toutes l'objet d'attaques de phishing tous les mois aujourd'hui, clairement. Les banques en ligne vont l'avoir de plus en plus. Et puis, aujourd'hui, on est en train de dériver vers d'autres comptes, c'est-à-dire les comptes des jeux en ligne, parce qu'effectivement, vous payez votre abonnement, donc ça a une valeur.
Ça se monétise. Ouais.
Ça se monétise. Tous les comptes liés effectivement à des ventes d'objets sur Internet, à la eBay, etc. Mais également tout ce qui est réseaux sociaux. Aujourd'hui, on met plein d'informations dans nos Facebook, Twitter,
LinkedIn,
Viadeo et tout autre, en gros, réseau social. Et là encore, effectivement, il y a beaucoup d'attaques qui cherchent à voler les informations de ces gens pour s'en resservir après, pour prendre notre contact, pour créer des listes d'emails, pour faire après des envois de spam, etc. etc. Il y a un vrai commerce derrière. Alors, je ne vais pas cliquer ici sur login. Des fois, on a pu avoir des surprises, donc...
Ouais.
Donc on ne va pas le faire. Et puis là, on précise bien que le site est vraiment non sûr.
Donc là, on a fait le maximum pour l'utilisateur. Ensuite, il y a toujours un minimum d'éducation à faire. Si l'utilisateur, il n'a toujours pas compris, on ne peut plus grand-chose pour lui, malheureusement.
Oui. Eh bien, écoute, on vient de terminer de brosser ces grosses fonctionnalités qu'il peut y avoir dans Internet Explorer 8. Il y en a d'autres sur la sécurité. Il y a le mode protégé, par exemple, dont je n'ai pas parlé. Peut-être intéressant, c'est que le mode protégé est disponible sur Windows Vista et Windows 7, donc pas disponible sur Windows XP. Et en gros, le principe en fait du mode protégé, c'est d'utiliser des mécanismes de contrôle d'intégrité dans le système d'exploitation. Et le principe des contrôles d'intégrité, si je faisais très très simple, on pourrait dire qu'il y a trois niveaux dans le système, il y en a plus, mais on va le faire simple. Donc le niveau d'intégrité haut, qui correspond en gros à être administrateur avec les pleins pouvoirs sur le système. Le niveau d'intégrité moyen, qui correspond en fait au niveau de privilège qu'un utilisateur avec ses privilèges utilisateurs standards. Et le dernier niveau, qui est le niveau d'intégrité bas, qui est le niveau, en fait, utilisé par le navigateur, ici Internet Explorer.
Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que IE implémente un mécanisme de bac à sable, le sandbox, qu'on est de mémoire un des premiers ou le premier à avoir implémenté.
Premier à l'utiliser, hein.
Donc ça surprend souvent les gens qui tapent un petit peu sur Internet Explorer d'une manière générale de découvrir qu'il y a des mécanismes de sécurité quand même relativement intéressants dans IE, qu'on a repris par les autres. Donc comme tu le dis, c'est disponible à partir de Vista.
De Vista, parce que c'est en fait un mécanisme intrinsèque en fait à Windows Vista et puis à l'évolution
qui était
Windows.
C'est lié au système d'exploitation. Quoi.
Exactement. Et donc le principe, c'est que un niveau d'intégrité bas n'a pas le droit de faire des appels ou de demander des actions à un niveau d'intégrité qui est plus haut. Le principe du niveau d'intégrité.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'une action qui serait effectuée au sein du navigateur IE8 en mode protégé, globalement, aura moins d'impact qu'une action qui serait faite par l'utilisateur avec ses privilèges.
Donc, l'utilisateur est admin.
Voilà. Mais là encore, quand l'utilisateur est admin, sur un Vista ou sur un IE7, on a cette fameuse demande d'élévation de privilèges pour monter d'un niveau d'intégrité, en fait. Donc on est vraiment dans un niveau d'intégrité qui est très bas, ce qui veut dire que par exemple la création d'un dossier ou d'un répertoire qui nécessiterait les privilèges de l'utilisateur pour pouvoir faire cette opération de création de l'objet ne pourrait pas être fait directement par le navigateur, donc par la menace qui est à l'intérieur du navigateur. Donc globalement, on a pas mal travaillé là-dessus, et aujourd'hui on commence même à avoir des plugins qui sont en train d'utiliser ces mécanismes, typiquement Adobe dans ses dernières versions de Flash, va implémenter et supporter effectivement ce mode protégé, ça date d'il y a quelques semaines jusqu'ici.
Voilà. D'accord.
Ah ben ça on l'a fait, hein. Donc on va passer...
Oui, on a enchaîné finalement plusieurs slides. Alors celui-là, c'est juste un slide de référence, vous pouvez le garder. Si vous souhaitez en tant que développeur à nouveau vous intéresser à l'implémentation des websites ou des accélérateurs, soit vous le faites à la main, on va dire, hein, c'est pas très compliqué à mettre en place, soit vous avez de la documentation sur MSDN ou des contrôles de haut niveau pour les développeurs ASP.NET que vous pouvez facilement mettre en place. Alors on arrive sur une slide qui a fait beaucoup couler d'encre numérique, qui est la matrice de compatibilité entre les navigateurs de chez Microsoft, Internet Explorer et les OS. Explique-nous un petit peu tout ça,
alors,
Stanislas.
Alors, effectivement, ça fait couler de l'encre numérique et ça alimente également des bons débats auprès des machines à café, souvent quand on est avec nos clients. On les comprend, mais on va être relativement pragmatique sur le pourquoi de tout ça. Donc ici, dans cette matrice, on a donc les versions des navigateurs, donc de la 6 à la 9, et puis on a les versions des systèmes d'exploitation, et on indique en gros si le navigateur est supporté ou peut être installé sur le système donné, ou s'il est natif au système donné. Donc IE6 sorti en 2001, natif à Windows XP, IE7 sorti en 2007, natif à Windows Vista, et IE8 sorti donc en 2008, nativement présent dans Windows 7. Ensuite, donc, en général, qui peut le plus ne peut pas forcément le moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un Windows Vista, on ne peut pas avoir installé un IE6. De même, sur un Windows 7, on ne peut pas installer ni un IE6, ni un IE7. IE9 va s'installer sur Vista et sur Windows 7. Et ici, la croix qui fait couler de l'encre numérique, ou qui alimente les conversations, bah, c'est la fameuse croix, pas d'IE9 sur Windows XP.
Alors, pour deux raisons principales, une raison purement technique qui est que on s'appuie à chaque fois dans nos nouveaux navigateurs sur des nouveautés du système d'exploitation, comme d'ailleurs le font pas mal à la concurrence. Typiquement, on va parler d'accélération matérielle à la fin de ce workshop pour gagner en performance sur les pages web grâce à l'utilisation du GPU. Pour ça, on va se reposer sur deux technologies qui sont arrivées avec Windows 7, que sont Direct Write et Direct 2D. Elles ont été backportées, comme on dit, dans Windows Vista, qui, tout le monde le sait, est un noyau très proche de Windows 7, donc le travail de portage était relativement simple, on va dire. Mais ce travail de portage vers un OS plus ancien de type XP, qui est comme d'une classe différente, on va dire, de Vista Windows 7, d'une part, demanderait beaucoup de boulot, voire peut-être techniquement serait très complexe, on n'arriverait pas au même genre de résultat. Et d'autre part, on sait que Windows XP, pour nous, est un OS en fin de vie, on va dire, dans la fin d'un cycle, qui sera supporté quand même jusqu'à 2014, ça veut dire que IE6 également sera supporté jusqu'à 2014. Donc chez nous, ça a également des impacts en termes de supportabilité et donc d'argent derrière. Alors qu'on sait très bien que les projets sont actuellement de migration entre Windows XP et Windows 7. Donc finalement, en attendant, vous aurez IE8 qui sera malgré tout un très bon navigateur, surtout pour l'entreprise, on va dire. Et où, une fois que vous aurez fait le gros du travail d'IE6 vers IE8, de toute façon, la migration vers IE9 sera tout à fait naturelle.
Oui, exactement. Donc peut-être préciser également que toujours dans les raisons techniques, depuis Windows Vista, donc depuis IE7, on a implémenté donc un certain nombre de mécanismes de sécurité garantissant que le navigateur soit moins une porte d'entrée des menaces. Or, c'est le cas aujourd'hui, hein, quels que soient les navigateurs, ou quels que soient les plugins sur les navigateurs. Et donc, effectivement, si au-delà de la partie performance, tu l'as dit, tu as parlé d'accélération GPU qui ne fonctionne qu'à partir de Windows Vista, ne serait-ce que pour la partie sécurité, notamment le fameux mode protégé, on ne pourrait pas l'avoir sur Windows XP. Donc, basiquement, faire un IE9 sur Windows XP correspondrait à avoir en fait vraiment deux classes très différentes d'IE9, c'est-à-dire un IE9 qui serait très performant et très sécurisé sur les plateformes Vista et Windows 7, et un IE9 qui serait finalement assez peu sécurisé et moins performant sur Windows XP. Donc,
le seul truc qu'on récupérerait serait la nouvelle interface graphique et faire croire aux gens que c'est le même navigateur alors que ce n'est pas le cas.
Voilà, on serait vraiment sur en fait deux versions de navigateur qui porteraient le même nom. À la limite, ça porterait plus préjudice au IE9 qui serait sur Windows Vista ou Windows 7 que de porter IE9 sur Windows XP. On en est désolé. Il faut être également conscient que on a fait des choix en termes d'investissement de ressources auprès, donc c'est-à-dire nos développeurs, le temps qu'on va mettre dessus, l'argent qu'on va mettre pour le développement d'IE9. Et aujourd'hui, on préfère se focaliser sur des systèmes, entre guillemets, nouvelle génération. Encore, on parle de Windows Vista qui a déjà 3 ans. Mais voilà, on ne veut pas surinvestir, en fait, et on préfère, en fait, focaliser nos équipes de développeurs à développer le meilleur navigateur possible, c'est-à-dire IE9 et ses successeurs, sur plateforme moderne, Vista, Windows 7, probablement Windows 8 après, et à passer du temps sur justement bien implémenter tout le respect des standards tels que définis par le W3C, censé qu'il y a un énorme travail, on en parlera dans la dernière partie. Donc voilà, désolé, c'est pragmatiquement, c'est comme ça. On vous montrera quand même dans la suite du programme, entre guillemets, qu'il y a des moyens en fait d'avoir IE9 sur un poste Windows XP par différents. Par différents moyens technologiques, virtualisation, etc. Et ça, on en discutera juste après.
Voilà, ça conclut cette première grosse introduction. On se retrouve dans la deuxième partie sur les problématiques de moteur de rendu.
Et bien, c'est parti.